Qui s'appelle C'est plus. C'est plus que simple, c'est seulement savoir, c'est de le vivre. On parle de quoi? On parle de Jésus. Ce Jésus qui n'est pas simplement notre sauveur, ce n'est pas simplement un personnage historique. C'est quelqu'un qui a vraiment existé. Et s'il a vraiment existé, on doit croire qu'il a fait ce qui est écrit de lui. La chose la plus compliquée à prouver pour les gens qui ne croient pas ou qui cherchent à dire que c'est pas vrai, c'est la résurrection. C'est pas souvent la croix, c'est la résurrection. Pourquoi? Parce que c'est le plus difficile à prouver. Alors la Bible même nous donne des épreuves qu'en quoi il est vraiment ressuscité. Et déjà, les textes bibliques nous disent que plus de 500 personnes l'ont vu, les apôtres l'ont vu, et des textes non bibliques aussi nous portent des preuves. Et comme des historiens juifs, plus tard, ils parlent de ce Jésus qui a ressuscité. Donc, ce n'est pas simplement dans des églises protestantes qu'on parle de ça, c'est la Bible qui le dit, et c'est même des textes hors bibliques, hors de contexte biblique, qui parle de cela. Alors, si on croit à ce Jésus, c'est Jésus, il est venu pour dire, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, donc quiconque, on peut mettre notre prénom, croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, Dieu devient, quand on laisse Dieu venir à notre rencontre, Dieu fait un changement radical dans notre vie. En premier lieu, il nous fait passer de l'ombre à la lumière. Des ténèbres de la mort spirituelle à être vivant spirituellement. Parce que oui, on a un esprit. Mais cet esprit-là, il est mort jusqu'au moment que Christ vient habiter dans notre vie par son esprit. Alors, c'est plus. Vivre Christ, c'est plus que seulement et savoir. La vie en Christ, c'est plus que le connaître comme sauveur. C'est de vivre chaque jour en reconnaissance, en comptant sur sa grâce et son aide pour me transformer dans un témoin vivant de sa vie en moi. Et le verset biblique qui vient avec, c'est « J'étais crucifié avec Christ dans le passé. J'étais crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui prend la place, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, de cette chair-là, et je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » C'est super. Il s'est livré pour moi. Donc, s'il s'est livré pour moi, il y a quelque chose que je dois donner en reconnaissance, en retour. En retour. Et encore une fois, on est dans cette série, dans le livre de 1 Jean. Donc, si vous avez votre Bible ou votre téléphone, et mettez votre téléphone, si vous pouvez mettre votre téléphone en silence, ça c'est très bien. Et cherchez votre application de la Bible dans 1 Jean, chapitre 3. Aujourd'hui, on va parler que nous sommes engagés. Si après vous voyez des fautes d'orthographe, venez me voir parce que je ne suis pas cool, je ne suis pas pro en orthographe. Et je me trouve assez bien, donc si vous trouvez des fautes d'orthographe, venez me voir. Et nous sommes engagés. Pourquoi? Parce que Jean, il va continuer à parler des choses qu'on a vues, on a compris de la part de Dieu. Donc, Jésus est venu en chair et en os. Et ça, c'est indéniable. L'histoire est division de avant et après Jésus. Ce n'est pas un autre personnage, c'est Jésus. Donc, il est venu en chair et en os, il est habité ici, il est mort, il est ressuscité, il est monté au ciel, il est là en train de veiller sur nos vies. Donc, il y a une vie à vivre. Nous sommes engagés. Quand on va à la banque, et on veut demander un prêt, et souvent, on ne lit pas tous les petits mots, toutes les petites lettres, mais à la fin, il faut mettre quoi? Lui est approuvé. Lui est approuvé. Et après, et même si vous regardez en ligne, quand il vous propose et différentes maisons de prêts d'argent, et dans toutes les petites lignes qui passent vite, il faut mettre pause pour lire, c'est marqué, et vous vous engagez à, et ce que dit vous engage à, blablabla. Quand on vient à Christ, Nous sommes, quand on est ressuscité avec Christ, nous sommes engagés en lui. Ce n'est pas simplement un ticket gratuit au ciel, que c'est déjà beaucoup. D'accord? C'est le décès de vivre. C'est pourquoi le nom de la série, c'est plus. Alors, Jean va aller encore plus loin, l'auteur, il va dire, nos vies doivent changer. Nous sommes engagés. Et c'est, en fait, ce n'est pas nous qu'on a signé avec Jésus, c'est lui qui a signé avec son sang dans notre vie. Il a mis sa signature avec son sang. Vous êtes racheté. Je t'ai acheté avec un prix. Et c'est énorme parce que lui, il nous a redonné la liberté. Il n'a pas gardé pour lui. Il a dit, je te redonne ta liberté. Mais alors, qu'est-ce que je fais avec ça? On va aller ensemble. La première chose que nous sommes engagés, nous devons être et que nous devons savoir dans ces choses-là, c'est qu'on a une position devant Jésus. Et chapitre 3, versets 1 à 9. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous sommes, et nous le sommes, si le monde ne nous connaît pas, c'est qui ne l'a pas connu. Bien aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Et quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même, il est pur. Donc déjà, la première chose que l'auteur va nous dire, c'est qu'il nous fait voir quelle est la taille de cet amour de Dieu pour qu'on soit appelé enfant de Dieu. On s'est prêt à mourir pour quelqu'un qu'on ne connaît pas? Non. La réponse humaine, tout droite, non. Et non. On entend des témoignages et des gens, des missionnaires qui sont partis dans la jungle pour prêcher l'évangile. Comment ils donnent leur vie pour cela? Comment ils voient parfois leur famille être enterrée vivante? Et leur famille en leur disant, on se voit au ciel. Pourquoi? Parce qu'ils savent où ils vont. Et Jean, il le dit, et nous sommes enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous le savons, lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Que j'ai une position devant lui, je suis enfant de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Jésus va venir nous chercher, il va nous appeler par notre nom, et boum, on va partir avec lui pour l'éternité. Il va nous donner un vêtement, l'apôtre Paul parle en 1 Corinthiens chapitre 15, d'un corps glorifié. Comment ça va être? Aucune idée. La Bible ne le dit pas. Simplement dit qu'on va avoir ces corps glorifiés pour pouvoir vivre ou habiter où Dieu habite. Souvenez-vous, où Dieu habite, il n'y a pas de péché. C'est trois fois saint, c'est produit comme ça. On ne peut pas supporter aujourd'hui sa gloire. Souvenez-vous, quand Jésus marchait sur la terre, il s'est transfiguré, quand il montrait un peu de sa gloire. Il ne pouvait pas, même pas le regarder dans le visage. Pourquoi? Parce que c'était glorieux. Et là, la Bible dit, je suis enfant de Dieu. Je vais le voir et un jour, va être super. Et si cela, ce n'est pas rien, ça veut dire que je suis engagé à quoi? Et le verset suivant dit, quiconque a cette espérance en lui, qui va venir chercher, et quiconque a cette espérance en lui, se purifie comme lui-même y est pur. Je suis enfant de Dieu, donc je dois être pur. Et il va nous donner quelques exemples. Quiconque pratique le péché et transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Alors, de quelle loi il parle? Il parle de Et la droite, la loi de Dieu. Quelle est la loi de Dieu? C'était marqué dans tout l'Ancien Testament. Simplement les 10 commandements, pour être simple. Alors, si je dois... Quand est-ce que nous pouvons mettre en pratique les 10 commandements sans tomber dans une? C'est pas parce que je ne peux pas venir devant Dieu, mais Seigneur, j'ai fait 9 sur 10. 8 sur 10. C'est impossible. Et en plus, après, sur l'Ancien Testament, il y a encore davantage de lois qui s'étaient données au peuple d'Israël. Pas toutes pour nous aujourd'hui, mais sont des plus de 600 lois à mettre en pratique. Personne ne pouvait la mettre en pratique. Après, on va le voir. Jésus l'a résumé en deux. Aime ton Dieu avec tout ton être, aime ton prochain avec toi-même. 2 au lieu de 10. Et même avec 2, c'est compliqué. Donc, je suis quand je sors de la loi. Le péché ne tranche pas de la loi, on va en dehors de ce que Jésus nous demande. Or, vous le savez, Jésus est apparu pour ôter le péché. Il n'y a point de lui en péché. Encore une fois, il dit, Jésus n'a jamais péché. Il est homme, Dieu. 100% homme, 100% Dieu. Quiconque demeure en lui ne pratique pas le péché. Quiconque pratique le péché ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Je suis enfant de Dieu. Donc Dieu me demande attention à ce que tu fais. Parce que si tu pratiques le péché, il faut que tu te poses la question. Vraiment, est-ce que j'ai une habitude de pratiquer un péché? Si j'ai une habitude de commettre le péché, ça veut dire quoi? 2 choses. La première, c'est que peut-être je ne suis pas enfant de Dieu. Au deuxième, je m'en fiche de Dieu. Pardon pour le mot, mais c'est comme ça. Je m'en fiche de la grâce que Dieu me donne. Et je l'utilise pour faire ce que je veux. Dieu m'aime de toute façon, oui. Il ne va pas cesser de m'aimer. Je ne vais pas tomber de sa promesse. Parce que la Bible dit en Colossiens qu'on a été transféré au royaume de son Fils qui va aimer. Donc je ne peux pas tomber de où je suis aujourd'hui. Même si on pêche, même si je pêche. La Bible dit la chose suivante, verset 7. Petits enfants, que personne ne vous séduise. C'est ça. Ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher. Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Il y a ma femme m'a fait souvenir un truc parce qu'il n'a pas dit, mais hier elle était en train de donner une conférence à des dames en Normandie. Et dans un moment, elle parle d'un professeur qu'il a eu dans notre séminaire en Argentine. Et cette prof a dit que le péché doit être un accident dans notre vie. Bon, évidemment, la tête, c'est quoi ça? Oui, est-ce que les matins, quand on se lève, on dit, ah d'accord, aujourd'hui, je vais avoir un accident. C'est un peu bizarre ce que je dis, n'est-ce pas? Bah oui, on ne sort pas de la maison, on ne s'assoit pas dans la voiture, on dit, bon, je vais chercher à trouver un accident. Soit je ne fais pas attention, soit l'autre personne ne fait pas attention. Le péché dans notre vie, parce que je suis enfant de Dieu, doit être un accident. Je ne le cherche pas, je ne le pratique pas. Pourquoi? Parce que sinon, il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie. Soit ma communion avec Dieu n'est pas où elle doit être, ou soit je ne suis pas du tout un enfant de Dieu. Il y a beaucoup de différences là-dedans. Nous sommes engagés quand je suis un enfant de Dieu. Nous sommes défiés à changer des habitudes, à changer nos habitudes. Je vais vous lire rapidement. Et Colossiens chapitre 3, verset 1 dit ceci. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Et après, attachez-vous aux choses d'en haut. Et verset 5, faites mourir dans ce qui est dans vos membres. Et quoi d'autre? Et devêtez-vous des choses. Ne montez pas les uns les autres. Dans cet engagement, je suis responsable de mes actes. Car maintenant, je réponds à notre nom, au nom de Joël, enfant de Dieu. Au nom de Gabriel, au nom de n'importe, mettez votre nom. Si vous êtes enfant de Dieu, mettez votre prénom. Je suis enfant de Dieu. Il y a un chant qui a chanté plusieurs fois ici. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Il y a quelque chose, il y a une nouvelle identité qui m'a été donnée. Donc, parce que cette identité m'a été donnée, je suis en responsabilité. Je suis engagé à quelque chose. À ne plus avoir des habitudes qui ne vont pas honorer celui qui m'a aimé. De telle façon, qui est mort pour moi à la croix. Nous sommes engagés parce que nous avons une position. Mais aussi parce que il exige, pardon que je le dise comme ça, une démonstration. La démonstration est le résultat de ce que je connais. Je ne peux pas produire une pièce automobile sans savoir comment le faire et quelle est son utilité. Quand nous disons connaître quelque chose et après de la pratique n'est pas présent, cela crée un décalage de ce que ma bouche dit et ce que je fais. Verset 10. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, il a les mêmes paroles qu'il utilise en chapitre 1, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Aïe, 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 c'est compliqué. Aime ton prochain comme toi-même. C'est pas simple. Verset 11, c'est 12. Et ne pas ressembler à Caïn qui était du malin et qui a tué son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Voilà qu'une réponse biblique est donnée. Pour ceux qui ne connaissent pas, Adam et Ève ont eu trois enfants, plusieurs enfants. Les enfants qu'il y en a dans le registre, c'est Abel, Caïn et Seth. Donc Abel et Caïn étaient en train d'offrir un sacrifice à Dieu. Donc Abel avait pesé un troupeau, donc il a offert un brebis. Et son frère Caïn, il a offert des fruits ou des légumes. Alors, souvenez-vous que ce moment-là, la loi n'était pas encore donnée. Dans ce moment-là. Donc, la seule chose que Abel et Caïn savaient, c'est que ce que son père lui avait transmis, que probablement l'Éternel avait transmis à Adam et Ève. Alors, est-ce que c'est la première fois qu'il faisait ça? La Bible ne le dit pas, mais moi je ne crois pas. Mais là, il y a quelque chose que la Bible va nous révéler. Caïn avait un cœur, dans ces sacrifices-là, c'est marqué, parce que ses œuvres étaient mauvaises et celles de son frère étaient justes. Lisez, relisez plus tard et Genèse chapitre 4, vous allez trouver pourquoi. Est-ce que ce que Caïn est en train de faire était mauvais et produire des fruits? Non. Le mettre devant le Seigneur? Non. Mais Dieu a vu quoi? Pas son sacrifice. A vu quoi? Son cœur. Et que c'était mauvais, c'est pas son sacrifice, c'était son cœur. Verset 13. Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous haït. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Parce que nous Parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque haït son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Nous l'avons connu. Et nous avons connu l'amour et ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède des biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles ou sa main, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Pratique. Quelque chose qui est démontrable. Comment je dis, je suis enfant de Dieu, je suis salué. Ouais, on chante. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis son enfant de Dieu. Je suis sa lui. Super. Et après, quand on sort, qu'est-ce qui se passe? C'est pas la même chose. Je suis plus un enfant de Dieu là. Ici, je fais semblant de dire un enfant de Dieu. Je lève la main, je donne mon offrande. Mais après, quand il y a besoin de quelque chose, en dehors d'un dimanche, en dehors d'une activité, qu'est-ce qui se passe? Je vais prier pour toi. Parce que la prière peut beaucoup. Je cite le verset biblique. Et on se ferme nos mains. Pourquoi? Seigneur, je te remets devant toi. Mais je sais dans mon cœur que je peux l'aider. Et quand je n'aide pas, je ne suis pas en train de faire ce que Jésus a dit. Aide ton prochain comme toi-même. C'est le doucien. Je peux aimer mon Dieu. Je ne peux pas dire que j'aime mon prochain si je n'aime pas Dieu. Simple comme ça.
En plus, écoutez ce que la Bible dit en Jacques chapitre 2, versets 14 à 17. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'y a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Jacques n'est pas en train de dire qu'il faut des œuvres pour arriver à connaître Jésus. Mais les œuvres vont démontrer si je connais Jésus ou pas. Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture et de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, Elle est morte en elle-même. Il y a une démonstration de la foi. Une démonstration.
Je suis engagé. Nous sommes engagés. J'ai une possession. Je suis un enfant de Dieu. Je cherche à me purifier jour après jour. Et cela va se démontrer dans mes actes. De tous les jours, pas simplement dimanche, mais tous les jours. Comment je traite ma femme, mes enfants, mes collègues. Comment je réagis à certaines situations.
Une démonstration. Mais de tout cela, dans cet engagement, comme peut-être il y a parfois une...
se passe quand on fait un prêt à la banque, pour revenir à la même situation, parfois il dit, si vous voulez... On peut mettre une assurance au cas où vous ne pouvez pas payer. En défaut de paiement.
Il y a une assurance aussi. Versets 18 au 24, le chapitre 3 de 1 Jean. Petits enfants, quand on voit et nous traite comme ces petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et que nous rassurerons nos cœurs devant lui. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Et il connaît toutes choses. Bien aimé, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons l'assurance devant Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire cela, Joël? Ça veut dire que
je peux être très dur avec moi-même. Ou très lax, très souple avec moi-même. Pourquoi je n'ai pas fait ça, Seigneur? Je n'ai pas eu l'occasion de le faire. Je peux avoir une mauvaise pensée de moi-même parce que je n'ai pas fait cette chose que je devais faire. Mais il dit, t'inquiète pas, je suis là. Je ne vais pas venir à te avec ma parole pour te casser. Je vais être là pour t'accompagner. Verset 22. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous fassions ce que lui est agréable. Et c'est ici son commandement. Écoutez bien. Que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. Celui qui garde ce commandement demeure en lui et Dieu en lui. Attention, il ne dit pas simplement l'Esprit de Dieu, il dit Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qui nous a
quoi ? Donné. Il ne dit pas repris, ça a donné.
Quand il donne quelque chose, il le donne de façon entière. Quand il a donné son Fils unique, il n'a pas donné simplement une petite chose, il a donné tout ce qu'il avait.
Et le garant, cette assurance qu'on a en lui, c'est l'Esprit de Dieu. Parce que quand il va venir chercher son église, il va regarder, il va trouver quoi ?
Son sceau dans notre vie. C'est quoi le sceau ? C'est son esprit.
Il nous dit, attention, nous sommes engagés, vous êtes assurés, Dieu connaît nos intentions, Dieu voit mon cœur.
Dieu n'arrive jamais, jamais en retard. Dieu n'est jamais en retard.
On a reçu hier notre...
La décision, vous savez qu'on est en train de prier pour ces lieux aux États-Unis qui se voyaient comme des là, c'était tout bien, était super ces lieux-là. Hier, pendant qu'on répétait pour le 22, pour les chants, et j'ai reçu le message, j'étais très curieux, je ne pouvais pas ne pas voir. Mais en arrivant à la maison, enfin, je l'ai lu, mais je n'ai pas complètement réalisé justement en arrivant à la maison. La réponse est un non. Alors, c'était difficile. Et c'est difficile. Pourquoi ? Parce que on croyait à quelque chose. Et Dieu me dit, Joël, tu es assuré en moi. Je vois tes intentions. Je vois ton cœur. Je vois que tu veux faire ma volonté. Il y a certaines choses que je vais mettre de côté. Mais tu t'étais engagé à me servir. Il m'a fait souvenir quoi? Un jour, je l'ai dit au Seigneur, Seigneur, tout ce que j'ai, tout ce que je sais et ce que je vais devenir, je te le donne. Baf. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, je lève mes mains de mon futur. Est-ce que cela me rassure? Ma chair? Non. Pas du tout. Ce que je vis dans la chair, je le vis en lui. Et cette assurance de savoir que toute la détresse, que toutes les souffrances sont terminées, me fait continuer, mes amis. Il doit nous aider à continuer. Pourquoi? Parce que Dieu connaît mon cœur. Et voici son commandement, que nous croyons au nom de son Fils Jésus, en premier, que l'on connaisse, et que nous aimions les uns les autres, selon le commandement qu'il nous a donné. Je peux vous dire que la première réaction qui a eu mon cœur hier, c'était pourquoi ils sont méchants avec nous. C'est une réaction naturelle. Pourquoi ils sont méchants avec nous? Et Dieu me dit, Joël, tu dois les aimer tels quels, avec leurs décisions, parce que c'est moi qui dirige, c'est moi qui suis souverain. Mais un jour, Dieu, à travers Jésus et par son esprit, il a signé un contrat dans ma vie. Et ce contrat, personne ne peut l'enlever. Je suis un enfant de Dieu, j'ai une possession. Et en tant qu'enfant de Dieu, j'ai une démonstration.
Je vais montrer, soit doit être évident. Vous m'avez entendu plusieurs fois dire la même chose. Il doit être évident dans ma vie. Et même si je tombe, je suis assuré. Et même si mon cœur me dit, Joël, il faut que tu ailles en autre lieu, je suis là, Joël. Aime ton Dieu, aime-moi, aime ton prochain comme moi-même. C'est les paroles que Jésus a données quand il était ici, sur terre.
Un dernier verset simplement pour la route, comme on dit en français, qui va résumer tout ce qu'on vient de dire. Et c'est Paul qui parle à Timothée. Il dit ceci en 2 Timothée, chapitre 2, versets 4 à 6.
Il n'est pas de soldats qui s'embarrassent des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Les laboureurs qui peinent doivent être le premier à recueillir le fruit. Comprenez ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence dans toutes ces choses. Dieu nous a donné l'intelligence. Dieu nous a donné la capacité de pouvoir réfléchir.
Mais ce n'est pas l'effort qui fait l'intellect pour croire. Ce n'est pas non plus l'effort de la volonté de faire confiance. C'est plutôt l'œuvre de Saint-Esprit en nous.
Ça, c'est pas moi qui l'ai dit, ça, c'est un père de l'Église. C'est pas notre force, c'est l'Esprit, l'œuvre de l'Esprit de Dieu. Prions ensemble. Seigneur, merci Seigneur pour ta grâce.
Seigneur, merci parce que tu t'es engagé une fois avec moi et tu as fait l'impossible. Tu as fait, Seigneur, quelque chose.